En voyant particulièrement la révolte à laquelle on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire quand les espions sont rentrés, et que, bon, bah, vous avez vu la conclusion, c'était qu'ils avaient décidé de lapider Josué, puisqu'on est sur l'histoire de Josué, je me suis arrêtée là et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'à chaque fois ils en arrivaient là à essayer de lapider ceux qui faisaient confiance en Dieu? Et donc, j'ai été amenée à étudier un petit peu de plus près les rébellions. Alors, donc, c'est pas très, je vous dis, c'est pas très, très encourageant, mais on va voir que c'est plus encourageant que ça en a l'air. Mais c'est bien, quelquefois, de voir comment les choses se passent. Parce qu'il y a un moment où Dieu est vraiment en colère et dit, mais ça fait 10 fois que vous êtes en rébellion contre moi. Et je me suis dit, 10. Déjà, je suis pas encore arrivée aux 40 ans dans le désert qu'on a déjà collectionné 10 révoltes. Donc, je me suis dit, 10, comment est-ce que Dieu arrive à ce calcul? Alors, j'ai essayé de refaire le calcul. Non pas que j'avais peur qu'il se trompe, mais que moi, je me sois trompée. Donc, je me suis aperçue qu'effectivement, il y en a 10. La première, vous vous rappelez, c'est quand le pharaon a décidé d'augmenter leur travail. Ils étaient prêts à lapider Moïse. Puis ensuite, quand ils se sont trouvés devant la mer Rouge avec les Égyptiens dans le dos, là, on peut comprendre. Ils ont eu très peur. Donc, de nouveau, rébellion contre Moïse. Ensuite, après 3 jours dans le désert, ils trouvent de l'eau, mais elle est amère. Rébellion contre Moïse et contre Dieu. 1 mois et demi après, ils voulaient de la viande, de la nourriture. Ils ont eu des cailles le soir et de la manne le matin. Mais ça a été toujours dans la rébellion. À Réphidim, ils ont besoin d'eau. Moïse va frapper le rocher. Et je vous rappelais, l'eau descend du rocher dans la montagne, va remplir l'oued qui est en bas et va alimenter tout le camp. Mais là, c'était encore une rébellion. Puis le veau d'or, vous connaissez bien l'histoire, en matière de rébellion, on ne fait pas beaucoup mieux. Ils ont fêté la Pâque la 2e année, et de nouveau des murmures. Le Bible ne dit pas exactement ce qui s'est passé, mais le feu de l'Éternel va dévorer une partie du camp. Donc là, commence à être quand même un peu chaud. Et puis, ils redemandent de la viande, et Dieu va leur donner de nouveau des cailles. Et là aussi, à chaque fois, c'est à la suite d'une rébellion terrible. Alors, la 9e, c'est Myriam et Aaron qui s'y mettent, qui jusqu'à présent avaient vraiment aidé, suivi, ce qui prouve que personne n'est à l'abri, je crois, d'un moment de rébellion. Ils murmurent contre Moïse, mais en fait, c'est contre le choix de Dieu qu'ils murmurent, parce que le pauvre Moïse, il n'avait rien demandé à personne, on s'en souvient, hein, quand Dieu est allé le chercher dans le désert, il n'avait vraiment pas envie. Hein. Donc, en fait, c'est contre Dieu qui se révolte. Myriam va être frappée par la lèpre, guéri à la suite de la repentance d'Aaron et de la prière de Moïse. Et puis encore des murmures, là, contre Caleb et Josué, et c'est là qu'on en était. Donc, voyez, ça m'a quand même un petit peu secouée. Je me suis dit, mais il faut quand même qu'on parle de ces murmures, s'il y en a eu 10. Et je me suis aperçue après qu'il y en a encore eu d'autres. Hein, j'ai fait le calcul. Quand j'ai terminé, j'en étais à la 14e révolte. Donc, il y en a encore 4 qui vont venir. C'est quand même beaucoup, hein. 10 en 2 ans. Donc, tu peux l'enlever, merci, je risque de le faire tomber. Ça le fait trembler. Hein. Donc, c'est quand même inquiétant et je pense qu'il y a un message pour nous. Comment ça se fait, parce qu'on n'est pas mieux qu'eux, hein. Comment ça se fait qu'on a cette tendance à la révolte? D'où ça vient? Pourquoi? Et aussi, surtout, comment on peut s'en sortir? Parce qu'on ne va pas quand même passer d'une révolte à l'autre sans arrêt comme ça. Hein, bon, la révolte était dirigée contre Moïse, mais en fait, elle était dirigée contre Dieu, hein, pas se faire d'illusions. Ouais. Donc, on va lire au chapitre 14 de Nombre. On va relire un petit peu pour se remettre dans le bain. Voilà. Nombre 14, enfin, on va commencer à 13. 13 au verset 25 jusqu'à 14 verset 10. Donc on a un peu de lecture, mais il faut se remettre dans le bain pour vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc 13, 25. Donc les espions sont de retour, ils font leur rapport. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Donc ils sont encore dans le désert, hein, au sud de l'actuel Israël. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté, ils leur montrèrent le fruit du pays et ils racontèrent. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel et en voici le fruit. » Donc observez bien le texte, jusque-là c'est vrai. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. » C'est vrai. Nous y avons même vu des Anakites. Les Amalécites habitent le Négev, les Hittites, les Jébusites, les Amorites, la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives de Jourdain, autrement dit, il y en a partout. C'est vrai. Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Caleb savait qu'à partir de là, ça allait devenir dangereux. Arrêtez là, vous avez dit la vérité, ça suffit, n'allez pas plus loin. Caleb fit taire le peuple devant Moïse, il dit, montons, prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. Caleb avait la parole de Dieu, il reste ferme dessus. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, et c'est là que ça se gâte, nous ne pouvons pas monter, c'est leur conclusion qui devient mensongère, nous ne pouvons pas monter vers ce peuple car il est plus fort que nous. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ça ne correspond pas du tout à ce que Dieu a dit. Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Tiens, tout à coup, il était beau. Maintenant, on commence à rentrer dans les choses mauvaises. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Aha. Tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Je suppose qu'il y a un peu d'exagération. Nous avons vu là des Néphilim, les Anakites qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Là, on est dans le mensonge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça se prouve complètement faux. Quand ils arrivent dans Jéricho 40 ans plus tard, on trouve que Jéricho tremble à l'idée de ce peuple qui arrive. Et on va voir l'histoire de Balaam. Hein, vous connaissez l'histoire de Balaam avec son âne. Balak était mort de peur devant ce peuple. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, maintenant ils sont dans le mensonge. Voilà pourquoi Caleb et Josué voulaient les faire taire. Conclusion, toute la communauté se met à crier. Le peuple sanglota toute la nuit. C'est logique avec ce qu'ils ont entendu. Tous les Israélites maugréèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Faut le faire quand même après avoir vu tant de miracles. Si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans ce désert. Bah tiens, quand ils avaient soif, ils ne disaient pas ça. Hein. Pourquoi le Seigneur nous fait-il entrer dans ce pays si nous devons tomber par l'épée? Nos femmes et toutes nos familles seront livrées au pillage. Ah là là, là on rentre dans le mensonge, on commence à divaguer complètement. N'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Bon, voyons. Retournons à l'esclavage, faisons-nous taper dessus. Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef. Et le « nous » est important. Donnons-nous un chef. Parce que celui-là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous, on en veut un selon notre cœur. Et retournons en Égypte. Moïse et Aaron, les pauvres, tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté d'Israélites. Je crois que, moi je les admire, hein. Ils ont toujours ce réflexe, chaque fois qu'il y a une rébellion. Face contre terre devant Dieu. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, notre Josué, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements. C'était un signe de deuil à l'époque. Hein. C'était courant. On déchirait ses vêtements, on se mettait de la cendre, etc., quand on jeûnait, quand on était dans le deuil, dans la souffrance. Ils dirent à toute la communauté des Israélites, alors écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. C'est la vérité. C'est encore la vérité aujourd'hui, tous les gens qui y vont, ils le disent. Hein. Je crois qu'Yves pourrait nous le dire aussi. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans le pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel, toujours dans la vérité. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Et j'aime beaucoup ce verset. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Alors, il y a différentes traductions, mais j'aime bien celle-ci. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. C'est-à-dire que, vous savez, si vous laissez un légume ou une petite grenouille, pauvre petite bête, en plein soleil, ils n'ont plus d'ombrage, ils meurent. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Le Seigneur est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Alors, je vous fais remarquer que Josué et Caleb n'ont absolument accusé personne. Ils sont dans un esprit de vérité et dans un esprit positif de foi en Dieu. Aucune accusation. Ils n'ont même pas essayé de se défendre. Et conclusion du peuple, que c'est mignon, toute la communauté parlait de les lapider. Ben voyons. Mettez-vous à leur place. Alors moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Parce que finalement, eux, ils donnent foi et encouragement. Pensez un peu à leur courage devant une foule hostile. qui n'a qu'une idée en tête, c'est ramasser quelques pierres, et il y en avait dans le coin des pierres. Hein. Si vous allez dans le désert, il y en a pas mal. Hein. Ils sont en face d'une foule hostile qui refuse de voir la vérité de Dieu. Et ils sont en minorité, hein, 2 contre 10. Josué avait déjà vu souvent Moïse dans une situation pareille, 10 fois, enfin 9 fois, c'était la 10e. Et là, c'est son tour, Josué, avec Caleb. Ça a dû être dur hein, quand même, c'est une chose de voir quelqu'un dans cette situation-là, mais de le vivre, ça vous donne des frissons dans le dos. Hein. Mettez-vous à sa place. Heureusement, il avait passé suffisamment de temps avec Dieu, avec Moïse, sinon je ne pense pas qu'il aurait tenu le choc. L'idée d'être lapidé parce qu'il était fidèle à Dieu, ça n'a pas grand-chose d'évident. Mais je crois que quand on sert le Seigneur, c'est obligé d'y passer. C'est comme ça. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que 10 espions sur 12 se rebellent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le mécanisme est toujours le même. Encore 3500 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui rentrent dans un esprit de révolte, de rébellion, fonctionnent toujours de la même manière. J'ai regardé par rapport aux différents textes, puis bon, j'en ai tiré un petit peu une conclusion. Vous allez voir, ça fonctionne toujours pareil. Et on va tous se trouver un jour ou l'autre dans des situations similaires. Alors, vous allez me dire, ah bon, oui, au travail, à l'école. Eh oui, vous allez voir. Dans la famille, et dans les familles, c'est encore plus dur, parce que notre affect est encore plus engagé. Alors après, moi j'ai connu ça, un conseil municipal, n'importe quelle association, n'importe quelle église va connaître ce genre de difficultés, parce que c'est profondément, profondément ancré dans l'âme humaine, le fait de se révolter. Le but du diable dans ces révoltes, c'est la division. Diviser pour régner, on sait bien que c'est le motto du diable, diviser pour pouvoir régner. Et c'est vrai que autant il perd dans l'unité, autant il gagne dans la division. Prise de pouvoir, contrôle, quelquefois simplement orgueil. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui font ça par simple plaisir. Une vengeance sur la vie. Et ça, vous en rencontrez. Si vous n'avez pas déjà rencontré, ça m'étonnerait, vous en rencontrerez probablement, que ce soit à l'école, au travail, dans vos familles, dans une association à laquelle vous participez, que ce soit une association de parents d'élèves, une église, un conseil municipal. Ce genre de choses arrive régulièrement. Donc, c'est important d'y jeter un petit coup d'œil. Alors, je me suis posé la question par rapport donc à ces gens quand même, ces 10 espions et toute la foule qui les a suivis, qui sont en fait les leaders dans des cas de révolte comme ça. Alors, ce qu'on constate souvent, ce sont des gens qui souffrent. Qui est-ce qui va mener la révolte, qui va inciter à la révolte? Ce sont souvent des gens qui souffrent. Alors, je suis sûre que dans votre tête, vous cherchez, si vous avez des exemples comme ça, en votre travail ou ailleurs, réfléchissez un tout petit peu. Ce sont souvent des gens qui souffrent. Ce sont des gens frustrés, qui n'ont pas eu dans la vie ce qu'ils voulaient. Et ça, il y en a. Hein. Des gens déçus. Des gens jaloux, du coup, des autres. Et au lieu de se tourner vers Dieu pour guérir, comme auraient pu faire tous ces gens qui souffraient, ils vont plutôt chercher à contrôler les autres et à provoquer des révoltes. Ce sont souvent des gens qui ont besoin de contrôler, qui aiment manipuler. Ils ont le souci de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, ce qui explique aussi leur révolte. Parfois, j'en ai même vu qui divisent pour le plaisir de réconcilier les gens après. C'est plus rare. Mais ça existe, parce que ça leur donne une importance. Vous trouverez peut-être ça à l'école, par exemple. Chez les jeunes, j'ai déjà vu ça, des gens qui essaient de séparer des amis, de monter l'un contre l'autre, pour après avoir le plaisir de les réconcilier et de se donner de l'importance. C'est tordu, mais j'en ai vu assez souvent, et même chez des tout jeunes. Hein. J'ai des classes de 5e depuis 15 ans, j'ai observé des choses comme ça. En tout cas, ce sont des gens qui souffrent. Alors, qu'est-ce qui se passait pour Israël? Pour Israël, ce sont des gens qui ont suivi Israël en espérant une vie meilleure. Parce que, regardez bien le texte, vous allez voir que tout le temps, on parle du ramassis de gens, c'est écrit comme ça, c'est pas moi, hein, qui suivaient Israël. C'était des Égyptiens, c'était d'autres gens qui ont suivi parce qu'ils espéraient une vie meilleure que l'esclavage. Ça peut se comprendre. Ils avaient été impressionnés par la plaie d'Égypte, par la puissance de ce Dieu extraordinaire, par les bénédictions qu'il accordait à son peuple. Vous savez, quand il y avait des mouches venimeuses partout et qu'il n'y en avait pas sur le territoire des Israélites, ça les impressionnait. On peut échapper à pas mal de choses si on suit ces gens-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là, quand ça ne va pas, ils n'ont ni foi, ni confiance, ni espérance, parce qu'ils n'ont pas de ressources en eux-mêmes. Ils se contentent de suivre en espérant avoir les mêmes bénédictions que les autres. En Israël, il y avait aussi le problème des gens d'Israël, alors, qui étaient influençables. Ils n'ont pas vraiment une foi personnelle, ni une très bonne vision de Dieu, on l'a vu. Et du coup, ils sont attachés au peuple et à Dieu, parce qu'il y a des bons côtés, mais ils voient aussi les bons côtés de l'Égypte, la bonne nourriture. Ça, ils n'en ont visiblement pas manqué, parce qu'ils en parlent tout le temps. Donc, visiblement, ils mangeaient bien en Égypte. Il y avait une abondance, il y avait quand même... Et donc là, évidemment, le désert, ce n'était pas si évident. Et ils m'ont fait penser un petit peu au bon grain, vous savez, dans la parabole de Jésus, qui est étouffé par les épines. Quand les épines commencent à pousser autour, ils étouffent le bon grain. Et puis, il y a aussi les Israélites, c'est la troisième catégorie, qui veulent une vie plus facile, calme et sans combat. Et là, on va, je pense, tous s'identifier à cela. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des tempêtes? On l'a chanté ce matin. Mais enfin, je pense qu'il n'y a personne ici qui a envie de vivre des tempêtes. Hein. Soyons logiques, ce n'est pas évident. On aimerait tous une vie calme et sans combat. Et malheureusement, parfois, ça nous amène à préférer faire des compromis plutôt que de faire la guerre. Et les Israélites, malheureusement, sont souvent tombés là-dedans. Ils voudraient bien s'installer dans le pays promis, mais sans passer par la phase de combat. Malheureusement, comme disait André tout à l'heure, c'est souvent dans ces phases de difficulté qu'on apprend à voir Dieu. Je vous avouerai que moi, je trouve ça dommage. Mais c'est comme ça, malheureusement. Et on va trouver ça chez les enfants, très souvent, qui aimeraient bien avoir un bon métier, mais surtout sans bosser à l'école, hein, sans étudier, qui aimeraient bien gagner plein d'argent, mais pas travailler. Du coup, on va trouver énormément de rébellion contre qui ? Contre les professeurs, qui vous obligent à travailler. Non, mais c'est inadmissible, ça. Au travail, vous allez trouver ces gens qui rentrent dans la révolte parce qu'ils veulent bien avoir une promotion comme l'autre, mais pas en travaillant, en manipulant. Combien il y a de gens ? Vous en avez eu dans votre travail, j'en suis sûre, vous avez vu ça. Et ils sont toujours dans un esprit de révolte et ils essaient toujours de manipuler parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir leur promotion en travaillant. Donc ils vont se révolter contre les chefs, contre leurs concurrents qui, eux, bossent. Vous allez voir la même réaction chez des adultes. Chez les adolescents, je veux dire qu'ils veulent les mêmes responsabilités que les adultes. Les adolescents, c'est normal. Ils ne sont pas tous comme ça. On n'a pas comme ça dans notre église, c'est évident. Mais il y a cette tendance quand même de dire « mais je suis presque un adulte et je voudrais bien les mêmes avantages ». Mais oh, les responsabilités, ça c'est autre chose, hein. On n'y tient pas trop. Donc ils vont se révolter contre leurs parents. Et tous les parents passent à un moment ou à l'autre devant cette révolte. Pourquoi mes parents m'imposent ceci, cela, etc. Et c'est pas évident à vivre pour les parents non plus, mais pour les adolescents non plus, c'est pas facile, parce qu'ils sont juste dans une position de transition. On voudrait bien les mêmes avantages qu'une vie adulte, mais on est encore adolescent et on n'a pas forcément envie d'assumer toutes les responsabilités de la vie d'adulte. Donc vous voyez, il y a tout ça dans le peuple d'Israël qu'on retrouve chez nous encore aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui aiment bien dresser les gens les uns contre les autres, j'en ai parlé, parce qu'ils ont besoin d'être aimés, d'être appréciés. Ça, vous allez trouver ça dans le travail très souvent. Très, très souvent. Ma sœur me racontait toujours ces histoires de travail. Et je me souviens, Annie Stéphane, quand elle était au travail, a connu des gens comme ça. Et ce n'est pas évident d'être en face de gens qui se comportent comme ça, qui aiment dresser les gens les uns contre les autres, pointer les défauts et les erreurs des autres pour se mettre en valeur soi-même. Il y a aussi les gens qui aiment bien mettre la guerre, tout simplement, parce qu'ils aiment ce climat. Ça, peut-être, ça calme leur souffrance et leur frustration intérieure. C'est rare que les gens qui mettent la guerre soient des gens heureux ou équilibrés. Ce sont des gens qui souffrent, il faut toujours s'en rappeler. Et parfois, on peut les aider. Parfois, on peut les aider. Il m'est arrivé d'aider des gens comme ça. Certains veulent bien être aidés. Mais c'est assez rare, mais ça arrive. Donc, il faut prier pour eux. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Pas la paix du compromis, mais la paix. La paix, c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est pour vous donner un peu le tableau, l'homme n'a pas changé. Alors, comment ils procèdent, ces gens que je vous ai décrits ? Vous allez les reconnaître si vous en avez à l'école, si vous en avez dans votre famille ou au travail, dans une association quelconque. Eh bien, ils commencent toujours par donner une bonne image d'eux-mêmes. Vous avez vu ce qu'ils disent, mais j'ai regardé un petit peu de près. Ils commencent en disant « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés ». On met bien la responsabilité sur Moïse, hein. Mais c'est vrai. Donc, ils donnent une bonne image d'eux-mêmes. Autrement dit, nous avons obéi, c'était ton initiative. Et on commence par le côté positif. C'est-à-dire, ils donnent une image d'eux comme des gens obéissants, innocents et soumis. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ça fonctionne toujours pareil. On commence toujours en donnant une bonne image de soi. Et jusque-là, c'est vrai. Et ils donnent d'abord le côté positif. Et là, comme je vous ai fait remarquer tout à l'heure, ils sont objectifs et véridiques. Ils sont dans la vérité. Jusque-là, pas de problème. Ils font leur rapport. Ils montrent même les fruits. Vous voyez, ils sont extrêmement objectifs. Et puis, il y a un moment où il y a un « mais ». Et les gens qui sèment la division et qui sèment la révolte, ils commencent toujours comme ça. Ils donnent une bonne image, ils disent des choses vraies, donc on écoute. Puis ils arrivent à un petit « mais », et c'est ce « mais » qui va tout casser. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ils sont encore dans la vérité, là. Ils sont encore dans la vérité. Mais ils commencent à dire « il y a des choses que vous ne savez pas. Moïse ne vous a pas tout dit. » Ça revient à dire ça. Parce que nous, on a vu tous ces peuples ennemis. Et on a vu qu'ils étaient partout. Il n'y a pas un petit endroit où on peut se glisser. Hein. Ils sont partout. Donc c'est humainement vrai. Hein. Mais ils commencent à donner le message, il y a des ennemis partout, il n'y a pas d'espoir. Donc ils commencent tout doucement à donner une image négative, mais elle est encore vraie. Et les gens qui sèment la division, qui sèment la rébellion autour de vous, ils procèdent toujours comme ça. Donc, maintenant que je vous ai mis sur la piste, observez et écoutez, que ce soit au travail ou ailleurs. On donne une bonne image de soi, on dit des choses vraies pour démarrer, on commence à dire les choses vraies, négatives, mais vraies. Et puis, après, les choses vont changer. Et c'est pour ça que là, Caleb sent venir la suite. Et il essaie de les faire taire. Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il dit... Conclusion, les enfants, montons et prenons possession du pays. Hein, bouf, on arrive tout de suite. Il ne veut pas que ça aille à des conclusions négatives. Jusque-là, c'est vrai, ok, on s'arrête là, montons. Et pour nous aussi, quand notre cœur se révolte, quelquefois, il y a quelque chose en nous qui se révolte. Ça nous est tous arrivé. Hein. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un qui nous aide à nous révolter. Et quelquefois, il y a quelque chose en nous qui commence la révolte. Et je crois qu'il faut faire comme Caleb. Il fait taire le peuple. Vous savez, comme il y a ce verset qui dit « Mon âme bénit l'Éternel », je crois que par moments, il faut se dire à soi-même « Mon âme, tais-toi. Mes émotions, taisez-vous. » Parce qu'on suit le même schéma quand on se parle à nous-mêmes. Hein. Positif, 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 vrai mais négatif, et hop, après on passe aux mauvaises conclusions. Bien, mais malheureusement, ça ne marche pas. Et ils arrivent à la conclusion que Caleb ne voulait pas les voir dire. C'est un pays qui dévore ses habitants. Et là, c'est le mensonge. Ils se portaient pas mal, hein, les habitants de Canaan. J'ai lu pas mal de livres d'histoire, parce qu'on a fait beaucoup de découvertes ces derniers temps sur Canaan. Et ben, ils se portaient pas mal. Hein. Par contre, ils avaient peur, ils avaient même demandé du secours. On trouve ça, pas dans la Bible, mais dans des textes historiques de l'époque. Ils avaient demandé du secours à l'Égypte, devant ces peuples qui commençaient à envahir la plaine. Donc, ils se portaient pas si mal que ça. Ils étaient capables d'écrire à l'Égypte pour avoir de l'aide. Et donc le pays n'avait pas l'air de dévorer ses habitants. Mais la conclusion, leur conclusion ne tient pas compte de Dieu. Et c'est là quand notre cœur se révolte, souvent, c'est on oublie que Dieu, comme on dit en anglais, est dans l'image. Et Dieu fait partie du problème. Et souvent, on oublie ça. Et on arrive à cette fameuse vision de soi comme une sauterelle, et les autres nous voient comme des sauterelles. De toute façon, nous, on sait qu'on est des sauterelles par rapport à eux, puis les autres, c'est sûr, ils nous voient comme des sauterelles. Ça, c'est un mensonge total. L'avenir va le prouver. Donc, voyez, on passe de vérité positive, vérité négative, et maintenant, on est dans le mensonge. C'est ça que Caleb voulait éviter, mais bon, il n'a pas pu. Évidemment, le principe du mensonge, nous sommes des sauterelles, et les autres nous voient comme des sauterelles, c'est le principe des lunettes colorées. Si je viens vous mettre des lunettes bleues, bleutées, sur le nez, vous allez tout voir bleuté. Si je vous mets des roses, vous allez tout voir rose. Voyez. Et souvent, il y a des gens qui sont spécialistes de nous mettre des lunettes colorées sur le nez. Il faut faire très attention parce que c'est souvent très efficace. Ils vont vous montrer que l'aspect négatif d'une chose, avec des conclusions vraiment négatives. Ils partent toujours à partir de vérité. Et là, je voudrais quand même vous dire quelque chose, j'ai réfléchi, ça m'arrive de temps en temps, et je me suis dit, mais Moïse, c'était un homme. Ça veut dire qu'il avait des défauts, sinon ça aurait été Jésus. Ça veut dire que quand ils étaient agacés après Moïse, ils n'avaient peut-être pas toujours tort. Il avait certainement des défauts, ce brave Moïse. Peut-être qu'il avait une façon de parler qui ne leur plaisait pas, peut-être qu'il avait des manies, peut-être... La Bible ne dit rien sur ses défauts, si ce n'est qu'une fois, il a sauté un plomb, puis il a tapé au lieu de parler au rocher. Mais à part cette fois-là, la Bible dit que c'était l'homme le plus doux de la terre, le plus humble, le plus patient. Mais je pense qu'il y a des moments, il avait quand même peut-être des tics, des habitudes qui ne plaisaient pas aux gens. Donc c'était facile de se révolter contre lui. C'était facile de dire, vous avez vu Moïse ? C'était un homme, hein, on oublie parce qu'on idéalise souvent Moïse. Mais vu que ce n'était pas Jésus, il n'était donc pas parfait, il y avait certainement des choses qui devaient déplaire aux gens. Donc c'était facile de se révolter contre lui. Et de mettre des lunettes colorées aux gens en disant « Vous trouvez normal que ce soit notre chef ? Vous trouvez normal qu'il nous ait menés dans ce désert où on crève de soif, de faim, etc. » Donc voyez, si on était à leur place, probablement qu'on leur aurait peut-être donné raison, c'est ça qui me fait peur. Et puis maintenant on arrive à l'effet produit sur le peuple. Alors vous avez vu, ils crient, ils sanglotent. Et naturellement, ils finissent par râler contre Moïse. Jamais une fois, on voit le peuple se mettre à genoux et prier. À l'époque, on se mettait à genoux, on s'allongeait par terre, on se courbait. Un petit peu comme font les musulmans aujourd'hui, hein, la tête sur le sol. Non, ils crient, ils sanglotent toute la nuit. Mais ils auraient pu prier toute la nuit. Ça leur est pas venu à l'idée, apparemment. Ça, je trouve ça bizarre. Et tout ce qu'ils vont dire, ce sont des choses négatives et injurieuses à l'égard de Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu peux nous faire sortir maintenant de ce mauvais pas ? Non, si seulement on était mort en Égypte. Ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient demandé à l'époque. Hein. Si seulement on était mort dans le désert. Ils n'ont jamais demandé ça. Et c'est ça que je trouve très très curieux, c'est que quand on est découragé, on va dire des choses stupides. C'est pour ça que Caleb fait taire le peuple, et qu'on est appelé à se faire taire soi-même. Faire taire nos émotions, qui disent « Ah, si seulement je n'étais pas entrée dans cette école. » Je suis sûre qu'il y en a qui ont pensé ça parfois. « Si seulement je ne m'étais pas engagée dans cette formation professionnelle, si seulement je n'avais pas choisi ce boulot, si seulement je n'étais pas entrée dans cette famille, et ainsi de suite. » Faisons taire nos émotions, et ce n'est pas facile, hein. Facile à dire, pas facile à faire. Et puis, ils vont même jusqu'à prophétiser des choses. C'est quand même inouï. Nos femmes et nos enfants seront livrés au pillage. Voilà, on annonce des choses négatives. Et ça, qu'est-ce qu'on a tendance à le faire ? Oh, tout va aller mal, etc. On est humain. Aïe, aïe, aïe. Et tout ça parce que quelque part, il y a eu un ramassis de gens dans le peuple qui ont réussi à instiller un esprit de révolte. Donnons-nous un chef, retournons en Égypte. Alors, je vous ai fait remarquer que Caleb et Josué n'ont fait aucun reproche. Pourquoi ? Et là, on a eu l'enseignement de Dan Snead, là, en Hollande. Il faut toujours venir dans un esprit contraire. Donc, eux, ils faisaient des reproches. Caleb et Josué n'ont fait aucun reproche. Ils sont restés positifs et dans la foi. Ils auraient pu, hein. Je leur dis, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes en train de dire, là ? Vous êtes en train d'injurier Dieu, vous blasphémez, etc. Même pas. Ils sont restés dans une image positive. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Résultat, toute la communauté parlait de les lapider. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir quand on se trouve face à des gens comme ça, dans notre travail ou dans notre famille ? Vous savez très bien que souvent, il y a des gens dans les familles qui ont un affreux goût pour diviser les familles. Je sais qu'on en parle parfois en réunion de dames, hein, c'est un souci, et on prie pour des choses comme ça. Comment réagir ? D'abord, je crois qu'il faut discerner l'œuvre de l'ennemi. Quand les gens cherchent à créer des divisions et des révoltes, il faut voir au-delà de la personne et discerner l'œuvre de l'ennemi. Parce que depuis la Genèse, ça s'est passé comme ça. Le diable est venu voir Ève et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le doute. On pose des questions qui vont semer le doute dans le cœur des gens. Et le diable se sert des humains à ce niveau-là pour détruire notre foi, pour détruire notre paix, pour détruire notre vie et pour détruire nos relations. C'est vrai, pas seulement dans l'église, qu'on voit que l'église, mais c'est vrai dans le monde, c'est vrai à l'école. Combien j'ai vu d'enfants venir, même en cinquième, hein, qui venaient me voir en me racontant qu'un tel ou un tel les avait trahis, les avait dénoncés, leur avait fait du tort, alors que c'était leur meilleur ami. Vous savez, ça commence tout jeune à l'école, et c'est toute la vie où on rencontre ces problèmes-là. Et ces gens-là partent toujours d'une part de vérité. Comme on n'est pas parfait, c'est facile. Donc, discerner l'œuvre de l'ennemi, premièrement. Deuxièmement, surtout ne pas fixer nos regards sur ces personnes. Et là, je rejoins ce que disait Bruno tout à l'heure, fixer nos regards sur Jésus. Parce que plus on va regarder ces personnes qui sèment la division et la révolte, plus on va couler. Rappelez-vous Pierre, quand il a commencé à regarder les vagues, il est descendu. Et Jésus, heureusement, Jésus l'a rattrapé. Mais regardons Jésus. Et cherchons à voir son modèle. Et j'ai essayé de voir un peu Jésus, ce qu'il a vécu. Comment est-ce qu'il a eu affaire, lui, à des gens comme ça? Donc, j'ai fait un petit rappel. Vous vous souvenez, quand la femme a versé du parfum sur ses pieds? « Oh, Jésus, mais ce parfum coûte bien trop cher. Jésus, tu parles à une Samaritaine? Tu manges avec des publicains? Ah bah, t'es vraiment trop gentil, hein ?» Ça, c'est mon interprétation du texte. Puis, quelques temps après, « Tu renvoies ce jeune homme riche ?» Ah, c'est vraiment pas gentil. Tes disciples se lavent pas les mains avant de manger. Tout ça, c'était vrai, hein? C'était que des vérités. Jésus, ces gens chassent des démons en ton nom. Ah, pas ça, tu dois pas tolérer. Puis un petit peu après, Jésus va leur dire, vous, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Ça semble, hein, en contradiction, tous ces textes. Vous avez Marthe? Tiens, ma sœur ne peut pas me laisser travailler toute seule, tu restes là, elle reste à tes pieds, tu lui dis rien, quoi. C'est quoi ça? Il y avait des choses à redire, hein. C'est parce qu'ils ne regardaient pas Jésus. Ils n'avaient rien compris. Ils voyaient juste des apparences qui les choquaient. Fixons nos yeux sur Jésus, sinon voyez à quelle conclusion on peut arriver. Hein. Même pour Jésus. Alors, parlons pas pour Moïse, et encore plus pour nous. Jésus regardait au cœur. S'il a mangé avec des publicains, ce n'est pas parce qu'il était trop gentil, c'est parce qu'il disait ils ont besoin de médecins. C'est les malades qui ont besoin de médecins. S'il a renvoyé le jeune homme riche, c'est parce qu'il a regardé au cœur. Il a vu que cet homme se suffisait à lui-même et ne voulait pas aller plus loin avec Dieu. Il l'a laissé partir. Le cœur, on revient toujours à la même chose. Donc, Jésus est passé par là. Fixons nos yeux sur lui et posons-nous cette question que les casalistes ont bien présentée là au Nouvel An. Que ferait Jésus à notre place? Rester fondé sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur la vérité dans l'amour, et toujours agir dans l'esprit contraire. Ils amènent la division, amenons l'unité. Ils amènent l'accusation, amenons l'amour. Ils amènent le doute, amenons la foi. Ils amènent la division, amenons l'unité. Ils amènent l'agressivité, amenons la paix. Ils agissent avec orgueil, agissons-nous avec humilité. Agissons dans l'esprit contraire. Et au travail, vous allez me dire, ça ne marche pas. Si, ça marche très bien. Mais agissons dans la foi et dans l'esprit contraire. Et recherchons dans notre relation avec Dieu à trouver des solutions dans la prière. Hein, si on réagit avec les mêmes armes, ça va être la guerre. Et on sera peut-être perdant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on utilise les mêmes armes que les gens qui sèment la division. Ça suppose qu'on souffre un peu, oui. C'est le côté dommage de la situation. Alors, comme je disais tout à l'heure, parfois il faut comprendre la souffrance et la frustration de ces gens. Moi, je trouve que quand on lit le texte, on comprend hein, la souffrance et la frustration qu'on peut avoir dans le désert quand on a faim et soif. Quand même, hein. Et essayons de voir si ces gens acceptent notre aide. Pour que, de leur côté, s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner, c'est parce qu'ils n'arrivent pas... Peut-être à demander pardon eux-mêmes, à aimer les autres. Parfois, ils sont endurcis et ils se laissent entraîner dans une sorte de spirale négative et ils essaient d'entraîner les autres dedans. C'était le cas hein, de ces gens qui entraînaient le peuple d'Israël à la révolte. S'ils veulent rien savoir, prions pour eux, mais prions aussi pour notre protection. Parce que les gens qui sèment des divisions, qui sèment le doute dans le cœur, que ce soit au travail, n'importe où, ça fait du mal, donc prions pour notre cœur, que notre cœur ne se laisse pas entraîner, et prions pour notre protection. Et à moins que Dieu ne le montre très clairement, je crois qu'il ne faut pas rester dans la compagnie de ceux qui sèment la division. Alors au travail, c'est important, parce que ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas toujours s'éloigner, mais si c'est possible, On ne peut pas faire corps avec des gens qui sont toujours dans la révolte et la division. Et ça, je sais que ma sœur m'a souvent rendu témoignage de ça dans les bureaux, vous savez, c'est les bureaux de la sécurité sociale, c'était pas triste. Hein. Et parfois, il fallait prendre des distances avec les gens qui semaient sans arrêt la zizanie, la division. Parce que sinon, ça finit par déteindre, ça fait du mal. On ne peut que prier pour eux et les remettre entre les mains de Dieu. On n'a pas les mêmes armes que ces gens-là. Humainement, on est plus fragile parce qu'on n'utilise pas les mêmes armes. Mais nous, on a Dieu. On a Dieu. Et croyez-moi que Dieu est puissant, très très puissant pour défendre ses enfants. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est une chose terrible que de tomber aux mains du Dieu vivant. Et je crois que ces gens qui s'endurcissent dans l'accusation, la division, de montrer du doigt les défauts des chefs, des profs, ils rentrent dans une spirale négative. Remettons-les entre les mains de Dieu s'ils ne veulent rien savoir. Dieu s'en occupera. Donc je vous le dis parce que je sais qu'au travail, souvent, c'est un problème aussi. Et partout où on va, on est humain. Hein. Voilà, donc c'était important de voir que dans toutes ces révoltes, on va retrouver ces mêmes schémas, puis on n'a pas fini, on a encore 4 autres à venir. Et quelque chose aussi d'important, quand on se prépare à conquérir de nouveaux territoires, c'était le cas ici, c'est souvent là que les divisions et les révoltes arrivent. Alors, quand on parle avec des pasteurs, on s'aperçoit que chaque fois qu'on a une nouvelle construction, il y a une division. Quand on rentre dans un effort d'évangélisation intense, qui va beaucoup prendre l'énergie de l'Église, par exemple, il y a des divisions. Quand on rentre dans des nouveaux ministères qui vont être développés par l'Église locale, que ce soit des ministères envers les drogués, pour donner à manger aux pauvres, pour n'importe quoi, des nouveaux ministères, souvent, ça crée des divisions. Ça réveille, on dirait, des esprits. Je pense que c'est l'adversaire. Hein, voyons toujours l'ennemi qui est derrière pour créer des divisions. Et on trouve ça, pas seulement dans les églises évangéliques, même chez les prêtres catholiques. Dans les églises catholiques, on va retrouver... Parce que je pense que l'être humain, c'est d'une réaction qu'on a toujours. On a peur de ce qui est nouveau, on a peur du changement, on a peur de nouvelles difficultés, on a toujours peur quand on sort de sa zone de confort. Et les esprits de révolte se réveillent, même dans notre cœur, peuvent se réveiller. Donc attention, je crois que c'est vrai que la nouveauté, les nouvelles difficultés, c'est dur... Très dur, ce sont des tempêtes intérieures en tout cas. Alors là, après qu'ils aient décidé de lapider Josué et Caleb, Dieu se fâche. Et Dieu se fâche là beaucoup plus fort, je trouve, que d'habitude encore. On dit que dans la Bible que Dieu est lent à la colère. C'est vrai. Et souvent, je dis aux gens, attention, n'allez pas au point où Dieu va intervenir avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté. N'essayez pas de jouer avec Dieu, dire, oh, ben, il a laissé passer cette fois-ci, je peux encore recommencer. Il y a un moment, John Wimber expliquait ça comme ça, il disait c'est comme si quelqu'un jouait avec une porte de prison. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, et oh, bah, après tout, il ne se passe rien, je peux continuer. Puis un jour, la porte se referme, et on est prisonnier. Il parlait de ça pour le péché, mais c'est vrai aussi quand on joue un petit peu trop avec l'esprit de révolte, l'esprit de colère, qu'on se révolte contre Dieu, il y a un moment où Dieu dit « ça suffit ». Et c'est là qu'intervient ce verset, c'est une chose terrible que de tomber aux mains du Dieu vivant. Pas trop jouer avec ça. Et le peuple a vraiment joué quand même 10 fois. Et là, Dieu dit, c'est bon. Je sais pas si on va le lire. Non, peut-être pas. Vous le lirez. Il dit, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Seulement Caleb et Josué pourront rentrer. Autrement dit, tout ce qu'ils avaient espéré s'écroule. C'est pour ça que c'est important de ne pas jouer avec Dieu 10 fois comme ça. Alors on se repent un peu, puis hop, on recommence. Attention quand même. Hein. Alors Dieu ne les a pas foudroyés sur le coup. Il a quand même attendu 40 ans que progressivement cette génération disparaisse pour rentrer. Mais il y a un dialogue avec Moïse qui est incroyable, parce que sur le coup, Dieu dit, c'est fini. Jusqu'à quand ce peuple me bafouera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de mettre sa foi en moi? C'est notre problème, hein? Mettre la foi en Dieu. Malgré tous les signes que j'ai produits en son sein, je le frapperai par la peste, je le déposséderai et je ferai de toi une nation plus grande. Il parle de Moïse, donc Moïse recommencerait tout à zéro comme Abraham. Et Moïse va pas du tout réagir comme ça. Il aurait pu dire, oh merci Seigneur, t'es gentil pour moi, tant pis pour les autres. Non. Et j'étais étonnée de voir comment Moïse est patient, malgré tout ce qu'il supporte. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, il aimait tellement Dieu qu'il avait le souci de la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça qui l'a tenu. Parce que j'ai essayé de dire, bon, il était gentil, il était patient, il était... Ah, mais pourquoi est-ce qu'il a tenu bon comme ça, malgré les promesses? Enfin, quand Dieu vous dit, écoute, c'est fini, je te libère de ces râleurs, et puis je fais de toi un nouveau peuple, après tout, c'est une parole de Dieu. Il aurait pu la prendre, hein. Dire, Seigneur, d'accord, je t'obéis. Mais non, il va discutailler avec Dieu, ferme, hein. Il dit, si tu fais mourir ce peuple, les nations qui ont entendu parler de toi diront... Le Seigneur ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays. De quoi il avait le souci? De la réputation de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui le préoccupait. Et la réputation de Dieu, ce que la Bible appelle son nom. Hein. C'est le nom, ça veut dire la réputation. Le souci numéro un de Moïse, c'était la gloire et la réputation de Dieu. C'est ça qui va lui permettre de supporter le peuple. C'est ça qui va le pousser à intercéder pour eux. Alors franchement, ils ne méritaient pas. Eux, ils pensaient qu'à le lapider. Et lui, il va prier pour eux. C'est ça qui va l'empêcher de baisser les bras. C'est ça qui va lui permettre de rester le leader du peuple, même quand les choses vont mal. Parce que être leader d'un peuple qui est tout gentil, ça c'est facile. Mais quand il parle de vous lapider, c'est quand même un peu moins drôle. Et même quand il est incompris, ridiculisé et accusé, et à raison, vous allez me dire quand même, il ne pouvait pas dire qu'ils avaient des beaux pâturages pour leurs bêtes. Hein. Il disait la vérité, il y avait une part de vérité en ce qu'il disait. Hein. Et quand Moïse est incompris et accusé, c'est ça qui va lui permettre de tenir bon, la gloire de Dieu. Que vont dire les autres peuples? Ah, oh, ils vont bien rigoler. Ah, oh, bah au moins, ce n'est pas notre Baal qui nous ferait ça. Hein. Astarté est plus sympa, et puis machin chose, et voilà. Et j'ai pensé à nous en tant que parents, qui supportent parfois les révoltes des enfants, pas dans notre église, je sais bien. J'ai pensé aux parents, aux responsables, que ce soit d'associations, aux responsables dans le travail, ceux qui ont des responsabilités au travail, responsables d'église ou même dans des mouvements chrétiens à tous les niveaux, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ, tout simplement. Là où il nous a placés, ça doit aussi être notre souci numéro un, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Que rien ne porte atteinte au nom de Dieu, à sa gloire et à sa réputation. Je me souviens qu'il y avait dans l'église, il y a quelques années, quelqu'un qui, à son travail, avait eu des problèmes avec une autre chrétienne. Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit « ça m'embête parce que pour le témoignage ». Elle m'avait dit « je crois que ce que je vais faire, je vais essayer de la voir en dehors et de ne pas en parler au chef pour la gloire de Dieu ». Ça m'a beaucoup plu, ça. Parce que je crois que l'autre chrétienne avait gaffé. Mais bon, ça peut arriver, on est tous capables de gaffer. Mais elle a préféré gérer ça discrètement pour pas que la gloire de Dieu soit engagée. Pour pas que ce soit une chef non chrétienne qui vienne séparer les contestants. Et... Elle avait le souci de la gloire de Dieu. Et ça m'avait beaucoup touchée. Parce qu'elle était très sensible et je me suis dit, oh là là, ça va la casser ce genre de truc. Mais non, elle a quand même eu le souci de préserver la gloire de Dieu et de pas amener un conflit entre deux chrétiens dans son cadre de travail. Quelle sagesse! Et soyons pareils. Essayons de vivre toujours avec cette pensée. Qu'est-ce qui va en être de la gloire de Dieu? De sa réputation? Et Moïse avait ce sens. Bon, alors après toute cette intercession de Moïse... Moïse dit « Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple selon ta grande fidélité, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Comme tu as pardonné déjà les 9 autres, pardonne encore cette révolte. » Yaïe. Il est extraordinaire quand même, Moïse. Et Dieu va céder. Par contre, et là ça arrive aussi parfois, il faut y penser, Dieu pardonne, mais parfois on est amené à porter les conséquences de nos fautes. Il y a des tas d'exemples, hein, quand Dieu peut pardonner, mais il y a des choses que Dieu ne va pas changer. Là, ils vont porter la conséquence. Dieu pardonne, mais ils vont porter la conséquence. Et il ne faut pas confondre, nous, en tant que chrétiens, le pardon avec le fait de tout accepter. Dieu ne le fait pas et il ne nous demande pas de le faire. On peut pardonner à quelqu'un qui a commis une erreur, mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'approuver dans ce qu'il fait. Il y a une grosse différence entre pardonner et approuver. On peut pardonner et dire cette personne, je l'aime, j'en dirai pas de mal, etc. Ou bon voilà, j'ai pardonné ce qu'elle a fait, mais ça ne veut pas dire que j'approuve sa façon d'être, sa façon de faire. Regardez un petit enfant, peu importe son âge, hein, il va faire quelque chose de très dangereux. Bon, après, il va vous demander pardon. Je sais pas, par exemple, il va se mettre debout sur une fenêtre au troisième étage. Il y a des grandes chances que les mamans aient le réflexe de donner une bonne claque sur les fesses. « Ne refais jamais ça !» Peut-être le petit va dire pardon, mais je veux dire, vous lui avez quand même donné une bonne leçon. Et c'est pas que vous ne l'aimez pas. Mais il n'aura plus le droit d'accéder à la fenêtre. Hein. Ça le protège aussi. Vous approuvez pas son comportement. Ça n'empêche que vous aimez la personne. Hein. Il faut savoir faire la distinction. Parce que l'amour, c'est pas de la guimauve. L'amour, selon la Bible, c'est aimer selon Dieu. Protéger aussi la personne, protéger les autres. Hein. Si, par exemple, vous avez vos enfants qui vous ramènent chez vous, un enfant qui n'arrête pas de dire des gros mots, d'être grossier, d'avoir des mauvais comportements, il est possible que vous disiez un jour, il n'aura plus le droit de venir à la maison, je ne veux plus que tu le fréquentes, parce que tu finis par faire pareil, parce que tu es jeune, c'est normal, tu te laisses entraîner. Bon, ce n'est pas très agréable. Vous pouvez pardonner à ce petit voisin et l'aimer de tout votre cœur, lui faire un petit cadeau à Noël, mais ça ne veut pas dire que vous approuvez son comportement et que vous allez favoriser la fréquentation. Vous voyez, je crois que quand on est chrétien, il ne faut pas être naïf. Souvent, on nous reproche à nous, les chrétiens, d'être un peu guimauve et un peu naïf. Et je le vois bien dans mes classes, même en cinquième, les enfants. « Oh ouais, madame, c'est un peu facile, le pardon chrétien. » Parce qu'ils ont une mauvaise image. Hein. Donc Dieu, vous voyez, il pardonne, mais ils devront payer le prix et passer leurs 40 ans dans le désert. Alors là, il y a un épisode que je trouve vraiment bizarre. Vraiment bizarre. C'est l'attaque ratée. Si vous avez lu le texte, après, vous allez voir qu'ils décident « Oh, on demande pardon à Dieu parce que, oui, Dieu se fâche. » Il leur dit « Vous n'entrerez pas. » Et puis, parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit et qu'il a rempli ses obligations envers moi, je le ferai entrer, etc. Et là, c'est bizarre. Ils se mettent tous à demander pardon à Dieu. Ils se repentent et ils disent « On va maintenant monter à l'attaque. » Et Moïse dit « Mais non, faites pas ça, c'est fini. Dieu a parlé, c'est terminé. » « Ah, mais si !» Si, si, maintenant, on demande pardon à Dieu et on va monter à l'attaque. Alors, c'est un épisode que j'ai trouvé vraiment bizarre. Ils ont entendu la réponse de Dieu, ils ont entendu leur punition, ils ont pris le deuil, j'avais oublié, ils ont dit « on a péché », alors jusque-là, bravo, bravo les gars, c'est très bien. Mais alors maintenant, on va monter, on va se préparer à faire la guerre. Mais c'est leur décision, c'est pas celle de Dieu. Et Moïse leur dit « mais attention, Dieu n'est pas avec vous dans cette affaire. » « Ah, mais si, nous on monte là, on va lui faire plaisir, il n'est pas avec vous, bon, on va y aller quand même. » Mais vous vous emmenez pas l'arche et moi je vais pas avec vous et Dieu ne va pas avec vous. Ça fait rien, on va y aller quand même. On va lui faire plaisir. Résultat, ils sont battus. Et je crois que j'ai trouvé ça tellement bizarre de leur part. La victoire n'est acquise que si Dieu est avec nous. Et ils n'avaient toujours pas compris ça. C'est quand même marrant. Deuxièmement, même si Dieu nous a promis quelque chose, agir hors du temps de Dieu, c'est risquer la défaite. Alors attention, là je parle surtout aux jeunes. Parce que quand on est jeune, on a cette tendance de vouloir, c'est normal, ça fait partie des qualités des jeunes aussi, mais ça peut leur jouer des tours. Dieu a dit, j'y vais, je fonce. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, on peut se récupérer des bleus, hein, et plus que des bleus parfois. Donc attention à agir selon le temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas la peine d'y aller. Dieu avait dit, ça sera dans 40 ans les enfants, maintenant c'est terminé. On va y aller tout de suite. Attention. Agir hors du temps de Dieu, c'est risquer la défaite. J'ai malheureusement vu des gens s'engager dans des services pour Dieu, genre missionnaire ou autre. Je pense à quelqu'un dans mon église où j'étais quand j'étais enfant. Ça a vraiment été une catastrophe. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et ça fait mal. Parce qu'on aime ces gens et puis on les voit souffrir. C'est horrible. Et la troisième chose que je tire de ça, c'est passer outre la correction de Dieu, ignorer ce qu'il a dit, c'est toujours une défaite. Même si on reconnaît son péché. Et parfois, on a tendance à « Oui, Seigneur, je reconnais, j'ai péché, etc. » Mais bon, allez, hop, je fonce, je fais ce que j'ai envie de faire. Même si on reconnaît son péché, il ne faut pas ignorer ce que Dieu a dit, parce qu'on est la pâture. Ce n'est pas que Dieu nous attend, surtout, pensez pas ça, que Dieu nous attend avec un bâton. C'est simplement qu'on est la pâture de l'ennemi. Si Dieu ne sort pas avec nous, si Dieu ne nous accompagne pas dans quelque chose, on n'a plus de protection. On n'a plus d'ombre, comme il disait le texte tout à l'heure, au-dessus de notre tête. On sort de son aile. C'est comme je dis toujours, si vous sortez sous la pluie, sans parapluie, vous serez mouillé. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. C'est simplement la chose. Et Dieu est pour nous un parapluie, une protection. Et si on veut sortir sans lui, on sera mouillé. Ce n'est pas lui qui nous attend avec un bâton. N'ayez jamais cette image-là. Simplement, il sait que si on sort tout seul, le diable nous aura. Il ne faut pas sortir tout seul. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est que ce pauvre Josué... qui a failli se faire lapider, il s'en est sorti, heureusement pour lui. ce pauvre Josué, il va aussi traîner dans le désert pendant 40 ans. Vous ne trouvez pas ça injuste, vous ? Il a été fidèle, il a risqué sa peau, il a été véridique, il est resté dans la foi, il a suivi le Seigneur, et il va aussi subir les 40 ans de punition avec les autres. Je trouve ça horrible. Là, il y avait de quoi se révolter. Il aurait pu se révolter. Il aurait pu dire, Seigneur, c'est pas juste, j'ai été fidèle. Et je dois subir la punition avec les autres. Voilà. Et là, il y a un point qui m'a toujours... Ça m'a toujours choquée, mais c'est vrai. Quand les gens se rebellent, ça peut retarder la bénédiction pour beaucoup d'autres gens autour. Même si Dieu tient ses promesses, il ne va pas mourir dans le désert. 40 ans après, ce sera même lui qui conduira le peuple. Mais n'empêche qu'il va se payer les 40 ans dans le désert. Ça ne va pas être drôle, on va voir. Et souvent, on se dit ça, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, ça ne regarde personne. Eh bien, ce n'est pas vrai. Combien on entend ça aujourd'hui, hein, chez les jeunes, mais même chez des gens plus âgés. C'est ma vie, ça ne regarde personne. Je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est pas vrai. Réfléchissez, quand un enfant se drogue, c'est sa vie. Mais ses frères et sœurs, vous avez vu le film des Gottes. Ses frères et sœurs, ils trinquent. Ses parents aussi. Ses amis. Ses profs. Quand on se marie avec la mauvaise personne, on a tous fait ça, je crois. Mais non. Quand on se marie avec la mauvaise personne, les deux familles sont affectées. Les deux familles sont affectées. Et tout le monde souffre. Même les amis souffrent avec vous. Alors surtout, il ne faut pas se culpabiliser. Heureusement, on a un Dieu d'amour et de compassion qui console, qui guérit, qui réconforte et qui ne va pas nous assommer parce qu'on a fait une erreur dans notre vie. Toujours garder ça présent à l'esprit. Mais n'empêche que ça affecte tout le monde. Quand on choisit un travail extrêmement prenant, et ça, je sais que pour les jeunes, ce sera quelque chose auquel vous devrez penser quand vous choisirez votre travail. Choisissez en fonction aussi de votre service pour le Seigneur. Quand on choisit un travail extrêmement prenant, on va dire, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais notre famille est affectée. Je me souviens, quand on s'est fiancés avec André, on a réfléchi, parce qu'on voulait servir le Seigneur. À l'époque, on ne pensait pas du tout avoir une église, mais on voulait servir le Seigneur. Et il y avait, vous savez, à l'époque, c'était le début des plateformes pétrolières, qui gagnait bien sa vie, etc. Et bon, sortant de l'école où il sortait, il pouvait prétendre un peu à tous les boulots. Et puis on s'est dit, non, il ne faut pas prendre un boulot qui prenne trop. Il faut qu'on ait les week-ends, il faut qu'on puisse... À l'époque, on s'occupait de jeunes étudiants, d'été au GBU. Il y avait le service de Dieu qui est entré en ligne de compte. Et donc, on a fait ses choix en fonction du service pour le Seigneur. Donc, on peut dire, c'est ma vie, mais la famille est affectée. Hein, je pensais à une histoire que j'avais lue il y a longtemps d'un chirurgien neurologue, c'est comme ça qu'on dit, hein, qui faisait les opérations du cerveau, etc., qui avait un tel boulot, une telle charge de boulot que sa famille s'est complètement détruite. Pourquoi ? Parce que il n'était jamais là. Il bossait nuit et jour. Et au fond de son cœur, il disait, mais je sauve la vie des gens. C'était un des meilleurs des États-Unis. C'était une histoire très triste. Ben oui, mais tout le monde a été affecté. Sa famille, ses enfants, etc. Donc, ce sont des choix où les autres sont affectés. On a beau dire, c'est ma vie, les autres sont affectés. On est tous liés, qu'on le veuille ou non. Vous savez, dans les conseils, le conseil général, on avait une réunion qui nous disait que la crise du logement en région parisienne, en fait, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de divorce. C'est uniquement à cause des divorces qu'on a une crise des logements. 1 sur 2, donc vous voyez, il faut faire le double de logement. Bon, même si c'est pendant un temps. Alors, il ne s'agit pas là d'accuser, hein, mais ce sont des réalités, ça affecte les autres. L'étudiant qui n'a rien fichu et qui est au chômage, n'empêche que c'est l'État qui va payer, donc c'est nous tous, c'est nos impôts, on est liés. Hein. Les gens qui fument comme des pompiers et qui tombent malades, c'est la sécu qui va payer, ce sont nos impôts, ce sont nos charges de sécu, je veux dire, on est liés. Hein. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser tous ces gens, mais il faut en être conscient. Notre choix de style de vie va affecter les autres. Et vous savez très bien que le sida, ça a été un de ces cas où le choix de style de vie a tué des milliers d'innocents. Les hémophiles, les transfusés sont morts par centaines parce que certaines personnes avaient choisi un style de vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, tout simplement. Alors on va dire, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, bien sûr. Dieu aime ces gens, ce sont des gens souvent qui souffrent, mais n'empêche que grâce à eux, Il y a des centaines de gens qui sont morts innocents. Je remercie Dieu d'avoir sauvé mes enfants, mais c'est une réalité. Ce qu'on fait influence les autres. Et on a beau dire « c'est ma vie, ça ne regarde personne ». Et surtout, on dit ça quand on est jeune. Donc là, je pense que vous ne le direz plus. Votre vie va influencer les autres. Tous vos choix vont influencer les autres. Vos amis, votre famille, vos collègues, vos amis, tout le monde, l'Église, on est tous affectés. Alors, les choses vont avancer. Notre pauvre Josué va donc subir les 40 années dans le désert. Alors, on peut se dire, mais à lui, ça va lui servir à quelque chose. Pauvre vieux Josué, il a déjà... Quand ça lui arrive, il doit avoir plus de 20 ans, et puis il va sortir, il aura plus de 60 ans. Vous vous rendez compte? Il pourra vraiment commencer son ministère à 60 ans. Plus de 60 ans. Eh bien oui, il va compléter sa formation. Il va en profiter pour continuer à être proche de Dieu. Au lieu de se révolter et de se fâcher, il va continuer sa formation. Il va être d'autant plus proche de Dieu qu'il va devenir un leader absolument extraordinaire. Alors, on va aborder d'autres révoltes, mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas pris la Sainte-Seine et on va pouvoir la prendre. Ce sera la révolte de Corée. On aura encore 4 révoltes à passer là, mes amis. mais c'est important de se rappeler de ça et que dans toutes ces choses que j'ai dites qui sont quand même un petit peu négatives, Dieu tient les choses en main. Quelle que soit la tempête qu'on traverse, que ce soit dû à la révolte de quelqu'un, un mauvais choix de quelqu'un, que ce soit... Dû à nos mauvais choix, rappelons-nous toujours que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et faisons comme Moïse, appelons-en à sa miséricorde et à sa réputation. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Tu pardonnes, tu es un Dieu qui pardonne. Quand il a vu qu'on allait à la catastrophe, hein, à l'entrée du pays, il a été là, Seigneur, tu as pardonné à ce peuple pendant tout ce temps depuis qu'on a quitté l'Égypte. Rappelons-nous toujours de ça. Et ne tombons surtout pas dans la culpabilité si vous avez fait des erreurs, si vous vous êtes révolté, si vous êtes rentré dans des divisions, si vous êtes rentré dans des... Vous êtes laissé entraîner par des gens ou vous-même vous l'avez fait, peu importe. Dites-vous que Dieu est un Dieu qui pardonne et qu'on peut toujours trouver sa grâce. Hein? C'est, la pire chose qu'on peut faire, c'est de croire que Dieu ne nous pardonne pas. Alors là, il n'y a plus d'espoir pour nous, c'est horrible. Mais non, c'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne, il repardonne. Vous avez vu ce peuple, 10 fois, il va pardonner. Et là, c'est encore le pire de tout, il va repardonner. Bon, ils vont payer un petit prix, mais il va repardonner. Et il va quand même leur permettre d'entrer, après 40 ans, tout au moins le reste, leurs enfants, ceux qui croyaient qu'elle allait être dévorée, ceux-là qui vont rentrer, qui vont avoir la bénédiction. Donc, restons sur cette idée que, quelles que soient nos révoltes, nos bêtises, nos mauvais choix, c'est un Dieu qui pardonne. Et encore aujourd'hui, 3500 ans après, Israël est rentré dans son pays. Ça, c'est la preuve d'un grand, grand pardon.